on dit méditation pour dire que ça va être court. Mais c'est une prédication que nous allons avoir. Tout à l'heure, dans le sketch, les ados nous invitaient à revenir à la presse écrite, en tout cas revenir à l'écrit, revenir à la Bible. Et c'est ce que j'aimerais vous inviter à faire, ce par quoi j'aimerais que nous commencions. Sauf que on va changer cette fois-ci, au lieu de simplement que ce soit moi qui lise le texte, ça va être, il va être passé par une vidéo. C'est le texte biblique, le même que cette Bible, mais avec quelques images, si on peut la voir. Voilà. Nous sommes au début de l'évangile de Luc, dans le chapitre 4, les versets 16 jusqu'à 21.
Jésus vient à Nazareth où il a été élevé. Le jour du sabbat, il entre dans la maison de prière, c'est son habitude. Il se lève pour faire la lecture des livres saints. On lui donne le livre du prophète Ésaïe. Jésus ouvre le livre et trouve le passage suivant. L'Esprit du Seigneur est sur moi. Oui, il m'a choisi pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour annoncer aux prisonniers « Vous êtes libres » et aux aveugles « Vous verrez clair de nouveau ». Il m'a envoyé pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre, pour annoncer « C'est l'année où vous verrez la bonté du Seigneur ». Jésus ferme le livre, il le rend au serviteur et s'assoit. Dans la maison de prière, tous ont les yeux fixés sur lui. Alors il leur dit, « Vous avez entendu ce que les livres saints annoncent. Eh bien, aujourd'hui, cela s'est réalisé. »
Voilà, jusqu'ici notre lecture. Donc, le chapitre 4 de l'évangile de Luc. Et quand on lit ce passage, on se rend bien compte qu'il nous manque des choses, qu'on n'a pas forcément l'habitude de ce qui se passe, qu'on regarde avec une certaine distance. Je ne sais pas, les enfants, ce que vous avez compris, où on est, ce qui se passe. Oui, Luc ? On est assez intéressant, on est dans une synagogue et il y a Jésus qui lit le message, qui lit un verset. Et James, Jésus qui enseigne les maîtres de la loi, tu crois? Est-ce qu'il y a d'autres idées? On est dans une synagogue, effectivement. Une synagogue, c'est le lieu où les Juifs qui sont pas à Jérusalem se réunissent pour avoir leur temps culturel, leur temps de prière. Et on se rend compte que ça n'a pas grand-chose à voir avec ce qu'on vit. Ça nous semble étrange, on a du mal à comprendre, mais pour eux, ce qui se passe là, c'est normal. Ils ont toujours fait ça, c'est comme ça qu'on fait. Le jour du sabbat, on va à la synagogue. Et à un moment, quelqu'un se lève pour faire la lecture des livres saints. Et c'est Jésus qui le fait ce matin-là. Est-ce qu'on lui a demandé? Est-ce que c'était à tour de rôle? Est-ce que c'était sur la base du volontariat et qu'il s'est levé spontanément? Est-ce que c'est lui qui a choisi le texte? Ou est-ce que ça a été décidé avant? Ça nous pose des questions, ce passage, et ça nous interpelle. Et ça devrait aussi nous interpeller ce que nous faisons aujourd'hui. Hein. Ça peut nous sembler naturel ou ça peut nous sembler différent. On est peut-être perdu, un culte avec des sketchs, on n'a pas l'habitude. Mais je crois que la Bible nous donne une liberté par rapport à la façon dont on rend un culte à Dieu. Ce qui est important, c'est Dieu. C'est celui vers lequel on se tourne. C'est celui qu'on vient rencontrer. Et je crois que si on est un peu dépaysé par ce qui se passe, c'est quelque chose qui doit nous inviter à nous souvenir que nous ne sommes pas les seuls chrétiens, nous ne sommes pas les seuls croyants. Ni aujourd'hui, ici, ni dans l'histoire, nous ne sommes pas les seuls. Celui qui est le seul, celui qui ne change pas, c'est Dieu. Et des fois, nous croyons que nous savons ce qu'il faut faire, comment il faut faire le culte, comment il faut s'approcher de Dieu. Mais le plus important, ce n'est pas comment il faut nous approcher, c'est de qui on s'approche. Dieu. Et il faut apprendre à le connaître. Mais revenons à cette synagogue au 1er siècle. Est-ce que, je vais réinterroger les enfants ou les ados, est-ce que vous avez réussi à capter quel est le passage que Jésus a lu ? Vas-y. Est-ce que tu as... Il racontait sa propre histoire. Alors, tu vas un peu vite. Avant de raconter sa propre histoire, il a lu un passage qui se trouve dans la Bible. Où est-ce qu'il se trouvait ? Est-ce que vous avez réussi à attraper ça ? Ésaïe. Très bien. Ésaïe. Ésaïe au chapitre 61. Il lit au chapitre 61. Est-ce qu'il lit plus et que Luc choisit de nous rapporter que ces versets ? Ou est-ce qu'il ne lit que ça ? En tout cas, après la lecture, tout le monde le regarde. Les yeux fixés sur lui. Il semble attendre quelque chose. Qu'il commente le texte, qu'il dise pourquoi il l'a choisi. Certainement était-ce l'habitude, après la lecture, que celui qui a lu la commente, apporte un encouragement, une exhortation. Et là, le commentaire que Jésus vient faire, il est étonnant. Et c'est ce que nous a dit Nathan. Jésus dit... Vous avez entendu ce que les livres saints annoncent, eh bien, aujourd'hui, cela s'est réalisé. Et ce qu'il veut dire, Nathan l'a bien compris, c'est qu'il est en train de dire que ça s'est réalisé parce qu'il est cet homme dont parle le prophète Ésaïe. Cette parole est difficile à recevoir pour ses interlocuteurs. Nazareth, c'est la ville où il a grandi. Ils l'ont connu gamin. C'était un enfant normal qui faisait des trucs d'enfant. Et puis, il est devenu adulte, il a fait des trucs d'adulte. Il a appris un métier, charpentier, et il a peut-être travaillé pour certains de ceux qui sont là à côté de lui. En tout cas, ils ne l'ont pas vu changer le monde. Les pauvres, les prisonniers, les aveugles, ceux qui ne peuvent pas se défendre. Alors, pour nous qui recevons ce texte aujourd'hui, nous savons que Jésus est le Christ, fils de Dieu, sauveur du monde. Ça coule de source. Mais pour ceux qui vivent avec lui, c'est difficile d'entendre cette parole. Et cette parole, je crois qu'elle nécessite notre attention. En effet, dans l'évangile de Luc, c'est la première fois que Jésus prend la parole. C'est le tout début de son ministère. Si on relit l'évangile de Luc, d'abord on a le récit de sa naissance, puis un épisode de son enfance, et la première chose qu'il fait en tant qu'adulte, c'est aller se faire baptiser par Jean, Jean le Baptiste. Ensuite, il va dans le désert et là, il est tenté. On peut dire que c'était la préparation pour son ministère. Puis il revient à Nazareth et là, il commence son ministère. Et c'est le récit que nous avons lu. C'est la première chose qu'il fait, les premières paroles qu'il prononce. Et pour les commentateurs de la Bible, il est clair que ce que dit Jésus à ce moment-là, c'est programmatique. C'est un programme. Un programme, on va en entendre parler. On va en entendre parler bientôt parce qu'il va y avoir des élections. Les élections municipales et nos boîtes aux lettres vont toutes recevoir les programmes des différents candidats. Le programme, c'est là où on annonce ce qu'on va faire, et ici, Jésus annonce ce qu'il va faire, ce qu'il va faire dans son ministère. Jésus est venu pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres, pour annoncer aux prisonniers, vous êtes libres, et aux aveugles, vous verrez clair de nouveau. pour libérer ceux qui ne peuvent pas se défendre. Et ce programme, il l'a suivi. C'est ce qu'il a fait au sens propre, aux pauvres, ceux qui n'arrivent pas à subvenir à leurs besoins. Il apporte la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Il y a les pauvres mendiants qu'il infirme, qu'il a guéri et qui ont pu retrouver une vie normale. Mais il y a aussi les pauvres en esprit, pour qui il dit que le royaume de Dieu est à eux. Ils y ont accès, sans limite, pour jouir de ses bienfaits. Aux prisonniers, ceux qui sont privés de liberté, il vient dire « vous êtes libres ». Et Jésus a délivré de nombreuses personnes possédées par des démons qui les retenaient captives, qui les empêchaient de faire ce qu'elles voulaient. Mais également, il vient délivrer ceux qui sont prisonniers du péché, qui font ce qu'ils ne veulent pas faire, ce qu'ils savent être mal, mais dont ils n'arrivent pas à s'empêcher. Aux aveugles, il vient dire « vous verrez clair de nouveau ». Et dans l'Évangile, il a littéralement rendu la vie à des aveugles. Mais également, il est venu révéler les réalités spirituelles à ceux qui ne pouvaient pas les voir. Il leur a permis de voir, il leur a rendu la vue. Et à ceux qui ne peuvent pas se défendre, il vient les libérer. À ceux qui sont oppressés par les hommes, par des forces, par des puissances, à l'argent, à l'obéissance aux règles, à la peur, eh bien, il vient proposer un nouveau chemin. Un nouveau chemin à sa suite. Un chemin de liberté. Jésus est en train de dire, là, au moment où il commence son ministère, qu'il est venu pour faire tout ça. Et que ça commence ici, dans cette ville de Nazareth, ce jour-là, dans cette synagogue. Et je ne vous cache pas que ceux qui l'écoutaient ont eu du mal à le croire. Et si on lit la suite du récit, on voit même que c'est un peu chaud. Mais n'allons pas plus loin. Je crois qu'il y a aussi une interpellation pour nous. On voit parfois Jésus comme celui par qui nous avons la vie éternelle. Et c'est vrai. Mais nous avons tort si nous nous limitons à cela. Si nous nous limitons à quelqu'un qui est venu nous apporter quelque chose pour après la mort, qui est venu nous apporter quelque chose pour plus tard. Jésus est venu pour faire du bien aujourd'hui. Il est venu pour faire du bien aux vivants. Il l'a fait quand il était physiquement sur terre et il le fait encore aujourd'hui. Et c'est une interpellation pour les chrétiens. Est-ce que nous le vivons? Est-ce que nous le croyons? La vie proposée par Jésus est une vie de liberté retrouvée. C'est une vie de bienfait, une vie de plénitude. Est-ce que nous la vivons? Est-ce que nous le voyons agir et délivrer aujourd'hui? Le mois dernier, ici, nous avions 7 baptêmes en 2 jours. Avons-nous prêté attention au témoignage des baptisés, témoignage qu'elles ont rendu avant d'être plongées dans l'eau? Elles ont témoigné de la liberté qu'elles ont retrouvée, de la nouvelle chance qui leur est offerte pour construire leur vie, de la vérité qu'elles ne voyaient pas et qu'elles voient désormais. Il faut être attentif. Plus tard, dans son ministère, des opposants demandaient à Jésus « Quand est-ce que le royaume de Dieu va venir ?» Et Jésus leur a répondu « Le royaume de Dieu ne vient pas comme une chose qu'on voit. On ne dira pas « Il est ici, il est là-bas. » En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Est-ce que nous voyons le royaume de Dieu au milieu de nous? Est-ce que nous voyons le royaume de Dieu dans nos vies? Et si nous sommes chrétiens depuis longtemps, nous pouvons nous habituer à ne plus les voir. Et pourtant, nous sommes invités à y faire attention. Vous connaissez ce chant un peu ancien, mais qu'on chante encore aujourd'hui. « compte les bienfaits de Dieu. Mets-les tous devant tes yeux et tu verras, en adorant, combien leur nombre en est grand. Être chrétien, c'est tellement plus que venir au culte régulièrement ou que savoir que Jésus est celui qui accomplit les prophéties de l'Ancien Testament. Être chrétien, c'est vivre le royaume de Dieu aujourd'hui. Savons-nous le recevoir? J'aimerais ajouter une chose concernant ces versets. Ces versets ont été choisis par notre fédération comme mot d'ordre pour cette année 2019. Vous avez peut-être vu les signets. On a aussi le visuel qui était là. Cette année, le mot d'ordre pour notre fédération était « Une église qui résonne dans la cité ». Et les versets associés à ce mot d'ordre étaient la lecture du prophète Ésaïe, précisément faite par Jésus ce jour-là à Nazareth. Choisir un mot d'ordre pour une année, pour une fédération, pour une église, c'est aussi un programme. Et à travers ce mot d'ordre, notre fédération nous invitait à réfléchir sur comment faire résonner la parole de Dieu dans nos cités, dans nos villes, dans notre voisinage. Et cette parole est belle à faire résonner. La liberté, la délivrance, la vue retrouvée. En effet, n'y a-t-il pas autour de nous des pauvres, des prisonniers, des aveugles, des personnes qui ne peuvent pas se défendre ? Assurément, il y en a. Il y en a au sens spirituel, mais aussi au sens propre. Et ce que nous avons reçu, nous ne pouvons pas le garder pour nous. Cette bonne nouvelle est pour tout le monde. Et les chrétiens que Jésus a envoyés sont invités à donner au monde, à voir ce qu'il a à offrir, à faire résonner ces paroles, là où nous sommes. Alors parfois, nous sommes impressionnés. C'est de l'évangélisation. Je ne suis pas fait pour ça. J'ai peur. Mes amis, j'en suis convaincu, si nous vivons ces réalités dans nos vies, et si nous nous mettons en chemin à la suite du Seigneur, le royaume de Dieu avancera. Soyons attentifs aussi bien à ce que Jésus vient apporter qu'à ce dont les gens autour de nous ont besoin. Soyons disponibles aussi bien pour recevoir ce qu'il donne que pour le partager. Pointons vers lui. Il est la source de vie. En relisant ces textes, nous retrouvons, peut-être découvrons-nous, le programme de Jésus. Que ce programme, c'est de faire du bien au monde autour de lui. Cette information était dure à entendre pour ceux qui le connaissaient trop bien. Mais nous, comment le connaissons-nous? J'espère que nous ne le connaissons pas trop bien ou que nous ne croyons pas trop bien le connaître, que nous n'écoutions plus ce qu'il a à nous dire, que nous le mettions dans une petite boîte et que nous ne soyons plus prêts à recevoir ce qu'il nous apporte. Ma prière pour nous tous, c'est qu'en ce temps de l'Avent, nous sachions le redécouvrir et que nous soyons prêts à nous laisser surprendre par celui qui vient, l'Emmanuel, Dieu avec nous. Amen.